Vous écoutez, on lit pour vous.
Faits et chiffres, le leadership et la participation des femmes à la vie politique, un texte de la rédaction paru le 12 juin 2025 sur le site ONU Femmes. La participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Et pourtant, les données indiquent que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du pouvoir décisionnel à travers le monde et que la parité entre les sexes est encore loin d'être atteinte dans la vie politique. Les femmes dans les postes à haute responsabilité de l'État. À partir du 1er juin 2025, il y a 27 pays où 31 femmes sont chefs d'État et ou de gouvernement. Au rythme actuel, il faudra 130 ans pour que la parité dans les décisions politiques du plus haut niveau soit atteinte. Seulement 18 pays ont une femme comme chef d'État et seulement 20 pays ont une femme comme chef de gouvernement. Données compilées par ONU Femmes montrent que les femmes représentent 22,9% des membres de cabinet à la tête de ministère dirigeant un domaine politique au 1er janvier 2025. Il n'y a que 9 pays dans lesquels les femmes occupent 50% ou plus des postes de ministres à la tête de domaines politiques. Les 5 portefeuilles les plus couramment détenus par les femmes ministres sont les suivants. Femmes et égalité des sexes, puis famille et enfance, inclusion sociale et développement, protection sociale et sécurité sociale, et culture. Les femmes dans les parlements nationaux. Seulement 27,2% de tous les parlementaires nationaux sont des femmes, en hausse par rapport à 11% en 1995. Seulement 6 pays comptent 50% ou plus de femmes au Parlement dans les chambres uniques ou basses, Rwanda, 64%, Cuba, 56%, Nicaragua, 55%, Andorre, 50%, Mexique, 50%, et Émirats arabes unis, 50%. 21 autres pays ont atteint ou dépassé 40%, dont 9 pays en Europe, 6 en Amérique latine et aux Caraïbes, 5 en Afrique et 1 en Asie-Pacifique. Au niveau mondial, il y a 21 États dans lesquels les femmes représentent moins de 10% des parlementaires dans les chambres uniques ou basses, dont 3 chambres basses qui ne comptent aucune femme. Au rythme actuel, la parité entre les sexes dans les instances législatives nationales ne sera pas atteinte avant 2063. Les femmes occupent 36% des sièges parlementaires en Amérique latine et dans les Caraïbes et représentent 33% des parlementaires en Europe et en Amérique du Nord. L'Afrique subsaharienne compte 27% de femmes parlementaires, suivie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est avec 23,5%, de l'Océanie avec 20%, de l'Afrique du Nord et de l'Asie occidentale avec 19% et de l'Asie centrale et méridionale avec 17,5% de femmes parlementaires. Les femmes dans l'administration locale. Les données de 145 pays indiquent que les femmes constituent plus de 3 millions, 35,5% des membres élus dans les organes de délibération locaux. Seulement 2 pays ont atteint 50% et 26 autres pays comptent plus de 40% de femmes au sein de l'administration locale. Des variations régionales sont également notés pour la représentation des femmes dans les organes délibérants locaux en janvier 2024. Asie centrale et du Sud, 41 %. Europe et Amérique du Nord, 37 %. Océanie, 31 %. Asie de l'Est et du Sud-Est, 31 %. Amérique latine et Caraïbes, 29 %. Afrique subsaharienne, 26 %. Afrique du Nord et Asie occidentale, 20 %. Élargir la participation. La participation équilibrée à la vie politique et le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes dans les prises de décision sont l'objet d'un consensus international fixé dans la déclaration et le programme d'action de Beijing. Si la plupart des pays du monde n'ont pas atteint la parité entre les sexes, les quotas de femmes ont largement contribué aux progrès réalisés au fil des ans. Dans les pays où des quotas de candidats sont prévus par la loi, la représentation des femmes est supérieure de 5 et 7 points de pourcentage dans les parlements et les collectivités locales, respectivement par rapport aux pays qui ne disposent pas d'une telle législation. Il est de plus en plus clair et établi que le leadership des femmes dans les processus décisionnaires politiques les améliore. Par exemple, des recherches sur les panchayat, conseils municipaux en Inde, ont révélé que le nombre de projets d'eau potable dans les régions où les conseils municipaux étaient dirigés par des femmes était supérieur de 62 % à celui des régions où les conseils municipaux étaient dirigés par des hommes. En Norvège, une relation causale directe a été déterminée entre la présence de femmes au sein des conseils municipaux et la couverture de garderies. Les femmes font preuve de leadership politique en travaillant au-delà des lignes de parti par le biais de caucus de femmes parlementaires, même dans les environnements les plus combatifs sur le plan politique, et en défendant les questions d'égalité des sexes, telles que l'élimination de la violence basée sur le genre, le congé parental et les services de garde d'enfants, les pensions, les lois sur l'égalité des sexes et la réforme électorale. C'était Faits et chiffres, le leadership et la participation des femmes à la vie politique, un texte de la rédaction paru le 12 juin 2025 sur le site ONU Femmes.
La marche de longue durée gagne des adeptes au Québec. Un texte de Carole Montpetit, paru le 15 juillet 2025 dans Le Devoir. Ils marchent durant des jours, des semaines, des mois. Seuls, en famille, entre amis. En ville ou sur des chemins de campagne, au Québec, en Europe ou ailleurs dans le monde. Ils marchent vers eux-mêmes et vers les autres, les deux pieds sur terre. On l'a nommé pèlerinage, marche pèlerine, marche de longue durée. Simple, écologique, peu coûteuse, elle séduit de plus en plus d'adeptes qui y consacrent un moment de leur vie. Ici, la marcheuse Michèle Godette a fondé il y a quelques années l'association Marcher autrement au Québec qui recense les itinéraires de marche de longue durée, abrite des forums de discussion et organise des activités entre marcheurs. J'ai toujours aspiré à marcher sur un des chemins qui mènent à Compostelle, raconte-t-elle en entrevue au Devoir. Mais, il y a 11 ans, je ne pouvais pas. J'étais occupée, mes enfants étaient plus jeunes. Au fil de ses recherches, elle découvre le chemin des sanctuaires qui relie Montréal et Sainte-Anne-de-Beaupré, pour un périple de 375 kilomètres. Le guide Ulysse Le Québec à pied, 50 itinéraires de rêve qu'elle a contribué à produire, propose de le faire en 18 jours. C'est un de nos plus anciens chemins, dit-elle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le chemin des Outaouais, que j'ai d'ailleurs parcouru aussi entre Montréal et Ottawa. Il y avait le sentier Notre-Dame-Cap-Atacan, qui longe le lac Saint-Jean. Contrairement à la randonnée pédestre qui s'effectue souvent en forêt, la marche de longue durée se déroule en milieu habité, généralement sur des routes de campagne. Marcher autrement au Québec a recensé une trentaine de chemins. J'en fais la promotion, mais je ne suis pas gestionnaire de chemin, précise Michel Godette. Quand on m'appelle ou qu'on m'écrit pour avoir une information sur un chemin, je donne le site Internet. Se promener sur le bord d'un chemin, c'est gratuit, mais des gestionnaires peuvent assurer aux marcheurs des itinéraires balisés ou une série d'hébergements réservés d'avance, selon le cas. Au Québec, relevait le sociologue Michel O'Neill dans un article du livre « Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec », on doit le plus souvent s'inscrire à quelque chose de préorganisé, plutôt que d'organiser son voyage de manière autonome. Cela est principalement dû, sur notre territoire très peu densifié, à la difficulté de trouver des hébergements prêts à accueillir des personnes à pied à des distances de marche quotidiennes raisonnables, ce que garantissent selon diverses modalités les chemins auxquels on doit s'inscrire, explique le marcheur engagé. Le guide Ulysse propose quant à lui 19 itinéraires de marche pèlerine, 6 promenades contemplatives, 10 marches urbaines et 15 randonnées dans l'arrière-pays. Il y en a pour les marcheurs de week-end comme pour les mordus, de ceux qui cherchent une expérience s'apparentant à celle de Compostelle en Europe. Ces marcheurs au long cours se reconnaissent entre eux. Ils savent les effets de la marche qui surviennent après une dizaine de jours sur le corps, sur l'esprit et sur l'âme. Quand on marche longtemps, ça brasse, raconte Michel O'Neill au Devoir. On fait face à notre rapport à l'univers, à notre rapport à nous-mêmes, à notre rapport aux autres, dans un contexte très différent du quotidien. C'est certain que la spiritualité au sens large nous rattrape un peu la plupart du temps, mais pas au sens religieux. Il y a des gens que ça ne rattrape jamais non plus. Il y a des gens qui font ce genre de parcours simplement pour des raisons touristiques. Faire le plein de vide. En partant pour Saint-Jacques, je ne cherchais rien, et je l'ai trouvé, écrivait Jean-Christophe Ruffin dans son livre « Immortelle randonnée ». Anne Saint-Hilaire, une adepte de Compostelle, parle aussi de faire le plein de vide. On se rend compte qu'on peut être heureux avec rien, déclare-t-elle. Dans la quarantaine, après une ablation de la thyroïde, Anne Saint-Hilaire avait perdu toute énergie. Je pleurais tout le temps, je ne me reconnaissais plus. Je n'étais plus capable de faire du sport. On lui diagnostique une dépression, mais les antidépresseurs qu'on lui prescrit déclenchent chez elle des idées noires. Ses jambes la font souffrir sans arrêt. Puis, elle dit avoir ressenti comme un appel, celui d'aller marcher à Compostelle. Seule, sans aucune expérience de voyage, elle s'embarque pour l'Europe et commence son périple au Mont-Saint-Michel. 9 kilomètres plus tard, elle était perdue et peinait à porter le poids de son sac. Elle a dû téléphoner à l'association locale de Compostelle. Aujourd'hui, elle a quelques 6 000 kilomètres de marche d'accumulée dans les jambes. Anne Saint-Hilaire est maintenant propriétaire de La Tienda, un magasin montréalais spécialisé dans le matériel de marche de longue durée. On y trouve autant des sacs d'hydratation que des pantalons longs convertibles en shorts ou du papier de toilette réutilisable. « Qui veut marcher longtemps voyage léger », a appris la propriétaire. Tous les dimanches, des marcheurs se réunissent devant son magasin de Verdun pour parcourir ensemble une dizaine de kilomètres le long du fleuve. Le Devoir les a accompagnés dans l'exercice. Au moment de notre départ, ils étaient quelques dizaines, surtout des femmes, à se diriger vers les rives du fleuve. Paul Century ne s'en plaint pas. Depuis un an et demi, il marche tous les mercredis, beau temps, mauvais temps, hiver comme été, avec un groupe de femmes qui s'est formé grâce à la tienda. Les hommes ont plus tendance à vouloir faire des choses seuls, avance-t-il. Diane Tassé fait partie du groupe de Paul Century et participe aussi aux marches de la tienda. À 66 ans, proche aidante de deux personnes, son mari et sa mère, elle a constaté que son récent périple à Compostelle avait évacué toute l'anxiété qui l'accompagne habituellement. Mais les bienfaits de la marche, qui sont très documentés, ne sont pas éternels. Et le choc qui suit un voyage de plusieurs semaines à se déplacer avec le strict minimum est parfois difficile à absorber lorsqu'on retourne dans notre société de surconsommation. Le pèlerinage arrive souvent dans la vie de marcheur à l'occasion d'un deuil ou d'une remise en question. La marche stimule les hormones du bonheur, la sérotonine, l'endorphine, dit Anne Saint-Hilaire. Mais il faut faire attention au retour. Le choc est invisible et incolore. C'est entre autres pour cette raison que la tienda propose de poursuivre le voyage avec des marches collectives en ville et des conférences. Marcher vers demain, vers soi, vers l'autre, c'est un mode de vie à préserver. C'était « La marche de longue durée gagne des adeptes au Québec », un texte de Carole Montpetit paru le 15 juillet 2025 dans Le Devoir.
Montée de l'extrême droite, nul n'est à l'abri. Bulletin 144, un texte du Frappru, publié au printemps 2025. Tout va tellement vite. À peine encaissé le sursaut de l'élection de Trump qu'il faut déjà s'inquiéter des répercussions et dérives ici. Car il serait dangereux de croire le Canada et le Québec vaccinés contre l'extrême droite. Le Parti conservateur de l'ultra-conservateur Pierre Poilievre a gagné en popularité auprès des hommes de 18-34 ans. L'extrême droite, qu'elle se définisse par son nationalisme exacerbé, sa tendance autoritaire, sa rhétorique populiste ou son hostilité aux principes démocratiques menaçant l'universalisme des droits fondamentaux, connaît une montée inquiétante dans les démocraties occidentales. Comment s'installent ces idées autrefois jugées marginales ou carrément déphasées? Leur banalisation s'impose notamment par une bataille culturelle, sémantique, médiatique et numérique. L'extrême droite impose son vocabulaire dans l'espace public et, ce faisant, impose les termes du débat dans les médias. Sur les réseaux sociaux, ces idées rétrogrades se propagent grâce à la modernisation d'un fascisme cool ou décomplexé, influenceurs masculinistes, tradewives. Se multiplient aussi les attaques contre tous les espaces critiques, universités, médias indépendants, organisations de défense de droits. L'objectif est de faire reculer les idées progressistes en leur opposant une propagande simpliste et virale. Une fois ces idées implantées, le parti d'extrême droite qui parvient au pouvoir affaiblit immédiatement les institutions. Réduction de la taille de l'État au minimum, coupe dans les services publics. La violence politique peut alors se décliner à travers des réformes constitutionnelles, un contrôle de la liberté de presse, la répression des contestations, etc. Partout où l'extrême droite arrive au pouvoir, les droits des minorités sont attaqués. L'exemple de l'Italie, la Hongrie, l'Argentine ou la Pologne illustre ce recul des libertés fondamentales. En quelques années, ces gouvernements ont affaibli les contre-pouvoirs, limité l'indépendance de la justice et restreint les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Un fascisme déjà là. À certains endroits, le traitement des populations marginalisées atteste d'un niveau de violence et de déshumanisation déjà toléré. Les politiques migratoires restrictives et l'instrumentalisation de l'immigration créent un terreau propice à l'extrême droite. Les débats québécois réduisent souvent l'immigration à une approche utilitariste, soit pour restreindre l'accueil, soit pour satisfaire les besoins du marché du travail. Cette vision déshumanisante ignore les drames causés par ces politiques, en plus de nier les situations qui poussent les gens à devoir fuir leur pays. L'itinérance est traitée avec le même mépris, perçue comme un problème sécuritaire plutôt qu'une crise humanitaire. La déshumanisation permet ainsi de justifier des politiques répressives. En liant la présence des sans-abri aux nuisances urbaines, comme les incivilités ou la criminalité, le discours dominant, au lieu de prioriser la souffrance des personnes concernées, se focalise sur le malaise qu'elle provoque chez les mieux nantis. Les terreurs que l'on craint du fascisme d'extrême droite sont déjà en place, aujourd'hui même, dans le traitement des populations marginalisées, clamaient les auteurs d'une lettre ouverte contre les politiques de lutte à l'itinérance. La meilleure défense contre le fascisme est de ne l'accepter sous aucun prétexte et à aucune échelle. Lutter contre l'extrême droite, c'est plaider qu'il n'existe pas de seuil acceptable de déshumanisation. Et au Québec? Bien qu'aucun parti d'extrême droite ne domine la scène politique québécoise, certains acteurs et médias contribuent à la diffusion de ces idées. Des polémistes et même certains élus participent à la diffusion d'un discours ultranationaliste et xénophobe. Des groupes masculinistes, des mouvements contre l'immigration et des figures politiques exploitent les tensions sociales pour légitimer des politiques discriminatoires. Les droits de grève sont mis à mal autant par les gouvernements que les universités qui les encadrent, à un point qui frise la répression dans l'œuf. Comment résister? S'informer, déconstruire les discours haineux avec des faits, renforcer les espaces démocratiques, participer aux instances de vos syndicats, comités logement, groupes communautaires, féministes et autres milieux militants. Refuser le cadre imposé par l'extrême droite dans le débat public, on ne discute pas les idées d'extrême droite, on les combat. S'engager politiquement, défendre les initiatives qui promeuvent la justice sociale et lutter contre la désinformation. Soutenir une presse indépendante. C'était Montée de l'extrême droite, nul n'est à l'abri, bulletin 144. Un texte du Frappru, publié au printemps 2025.
L'humain sera-t-il augmenté ou diminué par l'IA? Un texte de François-William Croteau, paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, IA, ces temps-ci. On en parle comme d'un outil révolutionnaire capable de tout faire, de tout résoudre, de tout améliorer. On la présente comme une solution aux problèmes de productivité, comme une aide précieuse à la prise de décision, comme une promesse d'efficacité et de progrès. Mais une question essentielle reste trop souvent oubliée, et l'humain là-dedans. Je vous ai déjà parlé de l'importance de la qualité des données pour alimenter une intelligence artificielle digne de ce nom. Je me suis aussi attardé à mesurer l'impact environnemental croissant de nos usages numériques. Cette fois-ci, il me semble nécessaire de revenir à l'essentiel dans cette drôle d'équation, soit au rôle de l'humain. Parce que derrière les algorithmes, derrière les modèles, derrière les outils, il y a toujours des personnes, et c'est à nous de décider ce que nous voulons faire, ou ne pas faire, avec ces technologies. Il est bien sûr fascinant de regarder une IA prédire avec justesse les comportements d'un usager, filtrer des candidatures, recommander un traitement médical ou automatiser des tâches administratives. Mais qu'arrive-t-il quand cette même IA se trompe, ou quand elle reproduit des biais systémiques, ou encore quand elle agit sans qu'on sache vraiment pourquoi elle a pris telle ou telle décision, ou, pire encore, quand elle agit à notre place sans nous laisser le choix de trancher? Ce qui me préoccupe, ce n'est pas tant l'IA en soi, c'est l'abandon progressif de notre jugement humain. L'IA devient parfois un prétexte pour ne plus réfléchir. Elle nous donne l'impression que la machine est neutre, objective, meilleure que nous. C'est faux. Une IA, c'est avant tout un miroir amplificateur. Elle réfléchit à ce qu'on lui donne à apprendre. Si les données sont biaisées, l'IA le sera aussi. Si on programme mal, elle agira mal. Et sans cadre éthique, elle risque de se développer sur un terrain vague aux dérives potentielles inquiétantes. Certains diront que je suis techno-pessimiste. À cela, je répondrai « Pas du tout. Je suis, au contraire, ce qu'on pourrait appeler un techno-réaliste. Je crois au potentiel formidable de l'IA pour améliorer notre société, mais à une seule condition, que l'humain reste dans la boucle. » Que nous gardions le contrôle, la capacité de dire non, de remettre en question, de corriger. L'IA ne doit pas devenir une autorité incontestée. Elle doit rester un outil. Et un outil, on l'évalue, on le surveille et on le remet en question. Cela dit, il serait injuste de passer sous silence tout ce que l'IA peut apporter de positif. Dans la lutte contre les changements climatiques, par exemple, elle peut modéliser des scénarios de réduction des émissions, optimiser la consommation énergétique des bâtiments, améliorer la gestion des réseaux de transport ou encore prédire les catastrophes naturelles avec une précision accrue. Sur le plan social, l'IA peut aussi favoriser une meilleure allocation des ressources, repérer les inégalités systémiques dans l'accès aux soins ou à l'éducation et même aider à concevoir des politiques publiques plus équitables. Entre de bonnes mains, avec des données de qualité et une intention claire de servir le bien commun, l'IA peut devenir un levier puissant pour accélérer la transition écologique et renforcer la justice sociale. Mais, pour cela, encore faut-il que l'humain garde les deux mains sur le volant. Dans certaines organisations, on commence heureusement à intégrer cette réflexion. On parle d'IA responsable, d'algorithme explicable, de transparence, de reddition de comptes. Mais soyons honnêtes, nous en sommes encore au balbutiement. La majorité des systèmes automatisés mis en place l'ont été sans vraie consultation, sans encadrement éthique digne de ce nom et sans que les citoyens comprennent vraiment ce à quoi ils ont consenti. Et c'est peut-être là que réside le plus grand danger, dans l'indifférence. Le numérique progresse si vite qu'on a parfois le réflexe de s'en remettre à lui les yeux fermés. On clique, on accepte, on suit les recommandations, on laisse des systèmes décider de plus en plus d'aspects de notre quotidien sans se poser les vraies questions. C'est pratique, oui, mais, à long terme, que nous restera-t-il de notre autonomie, de notre capacité critique, de notre pouvoir de choisir? Il faut donc remettre l'humain au centre tandis qu'il est encore temps. Cela commence par une meilleure éducation numérique, par l'alphabétisation aux enjeux de l'IA, et ce, dès le plus jeune âge, par la formation continue dans les milieux de travail, par des discussions publiques sur les choix que nous faisons collectivement, et surtout par une exigence de transparence envers ceux qui développent et déploient ces technologies. L'IA n'est pas neutre. Elle porte les intentions de ceux qui la conçoivent, elle reproduit les structures sociales existantes, y compris les inégalités. Si on veut qu'elle serve le bien commun, il faut l'encadrer, il faut l'orienter, et il faut refuser qu'elle remplace notre jugement, notre sens critique, notre sens des responsabilités. C'est cela, être techno-optimiste. En 2025. C'est croire au progrès, oui, mais à condition qu'il nous élève, pas qu'il nous remplace. Gardons les mains sur le volant et surtout, n'oublions jamais pourquoi on a décidé de prendre cette route. C'était « L'humain sera-t-il augmenté ou diminué par l'IA ?» Un texte de François-William Croteau paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir.
La parenthèse atomique des forces canadiennes. un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 4 août 2025 dans Le Devoir. Une batterie de missiles nucléaires dans les montagnes des Laurentides. Des chasseurs supersoniques capables de frapper l'URSS en plein cœur. Des lance-missiles aussi destructeurs que la bombe d'Hiroshima. Au cœur de la guerre froide, le Canada possédait un arsenal nucléaire en bonne et due forme avant d'y renoncer progressivement. Regard sur une époque méconnue où le pays jouait un rôle important dans l'équilibre de la terreur. Le village de la Macasa, au nord de Mont-Tremblant, est peut-être inconnu de la majorité des Montréalais, mais dans les années 1960, la base militaire du coin avait pour mission de protéger la métropole et le Québec d'une éventuelle attaque soviétique sur l'Amérique du Nord. Pour ce faire, la base de la Macasa était équipée de 28 missiles Beaumarchais d'une puissance de 7 à 10 kilotonnes, soit l'équivalent de la moitié de la bombe d'Hiroshima, prêts à intervenir si des bombardiers russes à long rayon d'action apparaissaient sur les radars. La petite base de 200 soldats, dont une quinzaine d'Américains chargés de l'entretien des charges nucléaires, faisait partie de la ligne de défense du NORAD face à une éventuelle attaque soviétique venue du Grand Nord. Au même moment, en Allemagne de l'Ouest, le Canada possédait sa propre escadrille de chasseurs, les CF-104 Starfighters, capables de porter le feu nucléaire au-delà du rideau de fer. La puissance de feu entre les mains des aviateurs canadiens fait débat. Les estimations allant de quelques kilotonnes à 1,5 mégatonnes. Quoi qu'il en soit, leur mission était claire. Faire partie d'une première vague d'attaques contre l'Union soviétique. Nos pilotes étaient formés pour atteindre des infrastructures très précises à l'intérieur des pays du pacte de Varsovie. Ils étaient très bons, explique Sean Maloney, spécialiste de la guerre froide et professeur au Collège militaire royal du Canada à Kingston. S'ajoutaient à l'arsenal nucléaire canadien des dizaines de missiles sol-sol Honest John, dont certains étaient aussi puissants que les bombes américaines sur Hiroshima et Nagasaki, ou encore des systèmes de missiles de lutte anti-sous-marin capables de couler des submersibles russes. En raison de la nature de la guerre et de la dissuasion à cette époque, pour qu'une armée soit efficace, elle devait avoir une capacité nucléaire. Ça faisait partie de la stratégie de l'OTAN en Europe, tout comme du NORAD en Amérique du Nord, rappelle M. Maloney, qui a consacré son doctorat et un ouvrage à la question « Learning to Love the Bomb, Canada's Nuclear Weapons During the Cold War, 2007 ». Impliqué dans le projet Manhattan, qui a mené au développement des premières bombes atomiques, le Canada a acquis ses premières armes au tournant des années 1960 avec l'aide de son voisin américain. Les deux camps antagonistes de la guerre froide sont alors en pleine course aux armements, particulièrement dans le domaine nucléaire. Les premiers déploiements militaires canadiens en Europe sont conventionnels, mais cela change rapidement parce que les menaces en Europe, en mer et éventuellement dans les airs, sont si nombreuses. Les armes nucléaires sont nécessaires pour répondre aux masses d'armes que les Soviétiques peuvent déployer, soutient M. Maloney. À l'époque, la question fait débat au pays, particulièrement le déploiement d'armes nucléaires en sol canadien. Le gouvernement conservateur de John Diefenbaker a tergiversé longtemps pour déterminer s'il fallait équiper ou non les Beaumarchais de têtes nucléaires. C'est finalement le libéral Lester B. Pearson, lauréat du prix Nobel de la paix en 1957, pour son rôle dans la crise de Suez quelques années plus tôt, qui donna son accord. Le Canada faisait partie d'une alliance, l'OTAN, qui avait choisi de partager ses armes nucléaires. Le pays voulait apporter sa contribution, analyse Andrew Richter, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Windsor et spécialiste de la défense canadienne. Le message lancé était que le Canada était un acteur militaire important, prêt à accepter différents rôles nucléaires. Les armes en possession de l'armée canadienne étaient de fabrication américaine. Elles étaient souvent entretenues par des soldats américains, notamment dans le cas des Beaumarchais, et leur utilisation devait faire l'objet d'un accord commun entre les deux pays ainsi qu'avec l'OTAN. La force nucléaire canadienne, ce n'était pas une force indépendante comme la force de frappe française qui évolue à l'extérieur de l'OTAN. C'était plutôt intégré dans nos alliances, précise M. Maloney. Cette parenthèse nucléaire, qui va en gros de 1962 à 1984, représente tout de même le zénith de la puissance militaire canadienne et de son implication au sein de l'OTAN. Au début des années 1960, les dépenses annuelles du Canada en matière de défense représentent plus de 4% du PIB, bien loin du 1,37% d'aujourd'hui. Pour M. Maloney, posséder des armes nucléaires permettait au Canada non seulement de jouer la carte de la dissuasion face au Bloc de l'Est, mais aussi de s'imposer comme un interlocuteur incontournable parmi ses alliés de l'OTAN. Si on engage des forces, qu'on les rend visibles et qu'on les utilise, on a un levier auprès du haut commandement pour dire « Nous sommes là ». On prouve qu'on fait quelque chose d'utile, on mérite d'être consulté sur la planification, dit-il. La fin d'une époque. Les armes canadiennes n'ont, heureusement, jamais été utilisées au combat. Elles disparaîtront progressivement de l'arsenal des forces armées au gré des coupes dans les dépenses militaires et d'une opinion publique de plus en plus hostile au nucléaire. À son arrivée au pouvoir en 1968, Pierre-Éliott Trudeau a fait savoir très clairement aux Américains et à l'OTAN qu'il ne voulait plus assumer ce rôle, explique Andrew Richter. Le Canada deviendra également un signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, s'engageant fermement pour le désarmement nucléaire. Rendu obsolète par l'apparition des premiers missiles balistiques intercontinentaux, les Beaumarchais seront remisés dès la fin des années 1960. La fermeture de la base de Lamaqaza en 1972 a créé une panique économique dans la région, selon Benoît Thibault, conseiller municipal dans la localité des Laurentides. La base a créé des dizaines d'emplois pour des civils. Pour les gens de la région, c'était le rêve d'abandonner la scie à chaîne et le travail dans les bois pour avoir un job avec un fonds de pension, rappelle celui qui a consacré une exposition à l'ère nucléaire de sa municipalité. La base de Lamaqaza deviendra d'abord le Collège Manitou, premier établissement d'éducation supérieure destiné aux Autochtones, puis un pénitencier à sécurité moyenne. Sa piste d'atterrissage sert aujourd'hui à l'aéroport international de Mont-Tremblant. C'est le bon côté de la guerre froide. Ça a laissé un héritage, un aéroport, un pénitencier, dit avec philosophie Benoît Thibault. Une perte d'influence. Le Canada a-t-il perdu au change diplomatiquement et militairement en devenant l'un des premiers pays à renoncer volontairement à l'armement nucléaire? Pas selon Stéphane Roussel, professeur de sciences politiques à l'École nationale d'administration publique. Au contraire, ça a probablement plus aidé la réputation que le Canada veut projeter, cette idée de la puissance moyenne qui favorise le multilatéralisme et le droit international, qui joue le rôle de médiateur et qui appuie les organisations internationales. Malgré tout, on peut regretter le niveau d'implication dans sa défense et dans ses alliances qu'avait le Canada à cette époque, soutient M. Roussel. La perte d'influence, elle est ailleurs. Depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970, le gouvernement canadien est réputé pour traîner les pieds dans sa contribution à l'OTAN. Et pourtant, il a déjà été un bon élève. Cet épisode atomique est aussi la preuve que le Canada a déjà été un acteur militaire majeur dont l'implication ne se limite pas aux missions des casques bleus, fait valoir Sean Maloney. Ce que nous faisions n'était pas immoral. C'était basé sur la dissuasion, dont le but est d'empêcher les guerres. À l'époque, c'était la chose à faire. C'était imparfait, mais on a fait la bonne chose, estime-t-il. Et si le Canada a renoncé aux armes atomiques, il reste tout de même protégé par le parapluie nucléaire américain, auquel il contribue activement par l'intermédiaire de l'OTAN et du NORAD, qui assurent une défense commune de l'espace aérien nord-américain. La défense ultime du territoire canadien est essentiellement basée sur la dissuasion nucléaire américaine. C'est difficile à accepter pour plusieurs personnes, surtout dans les circonstances actuelles, mais c'est un fait, rappelle Sean Maloney. C'était « La parenthèse atomique des forces canadiennes », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 4 août 2025 dans « Le Devoir ».
Pour apprivoiser la visite chez le dentiste à petits pas. Un texte de Catherine Anfield, paru le 27 juillet 2025 dans La Presse. À 5 ans, Sacha a vécu un traumatisme lors d'une visite chez le dentiste. Sa mère, Élise Crevier, préfère ne pas s'étendre sur les détails, mais les conséquences de cette intervention se sont révélées préoccupantes. Sacha est née avec une mutation génétique qui s'exprime chez elle par une déficience intellectuelle sévère. Elle ne parle pas et demeure très peu autonome. Citation. « Après ce traumatisme, dit Madame Crevier, elle est devenue insoignable. On ne pouvait plus lui brosser les dents. On ne pouvait même plus aller chez le médecin. Aussitôt qu'elle voyait des appareils, des gens avec des masques, elle paniquait, complètement. » Fin de citation. Le temps n'a pas vraiment arrangé les choses. Un jour d'hiver, alors que Sacha avait une carie, la dentiste a dû sortir de la clinique pour vérifier la bouche de l'enfant. Sacha refusait d'entrer. La carie a été réparée sous anesthésie générale. Élise Crevier en est venue à s'inquiéter pour l'avenir de sa fille, qui grandissait, mais refusait toujours d'être soignée, parfois avec vigueur. Il lui fallait trouver un moyen de la désensibiliser. Une approche qui a porté ses fruits. Après avoir sollicité plusieurs cliniques qui lui répondaient ne pas avoir l'expertise pour travailler avec des enfants comme Sacha, Élise Crevier a trouvé la clinique Spectrum qui a accepté de relever le défi. Pendant un an et demi, une intervenante est venue chaque semaine à la maison. En parallèle, Élise et Sacha jouaient chaque jour au dentiste. Élise Crevier raconte, citation, on avait une chaise de plage dans le salon pour imiter le fauteuil de dentiste. Dentifrice, brosse à dents, soie dentaire, miroir, on augmentait le nombre de secondes graduellement. Petit pas par petit pas. Fin de citation. Mère et fille ont même visité des bureaux de dentiste près de la maison. Juste pour regarder, pour explorer. Citation. Quand Sacha me tirait et me faisait signe « Fini, fini !» on repartait. Fin de citation. La patience d'Élise Crevier a porté ses fruits. Il y a 2 ans, à l'âge de 14 ans, Sacha était fin prête. Élise Crevier a choisi la clinique Sourire solidaire à Laval, une clinique communautaire œuvrant auprès des enfants vulnérables et des enfants à besoins particuliers. Citation. La dernière fois, Tasnim a réussi à faire tout l'examen de Sacha. Fin de citation, dit fièrement Élise Crevier, rencontrée à la clinique Sourire solidaire en début d'été, en compagnie de la docteure Tasnim Alami Laroussi, dentiste et cofondatrice de l'organisme. Un guide pour donner au suivant. Parce qu'elle n'est pas le seul parent à devoir composer avec le refus d'un enfant à se faire soigner, Élise Crevier a eu envie de donner au suivant. Ça tombe bien, L'équipe de Sourires solidaires avait aussi en tête de rassembler des stratégies pour les parents. Citation. En clinique, on est content quand on réussit à faire le soin, mais si à la maison, l'enfant refuse de se faire brosser les dents, on ne règle pas le problème à la racine. Fin de citation, souligne la docteure Tasnim Alami-Laroussi. Élise Crevier et l'équipe de Sourires solidaires ont donc lancé récemment le guide « Les petits pas de Sacha », dont le but est de favoriser l'acclimatation des enfants aux soins dentaires. Le guide, offert gratuitement en ligne, est destiné à la fois aux parents et aux professionnels et peut servir aux enfants à besoins particuliers, mais aussi aux enfants anxieux et aux tout-petits qui en sont à leur premier rendez-vous chez le dentiste. La méthode se nomme DT, découverte, éducation, tour de rôle, exécution, et comprend 6 exercices, brosse à dents, dentifrice, soie dentaire, brosse à dents électrique, miroir, radiographie, très bien expliqué. Le site web propose aussi une foule de ressources ainsi qu'un formulaire à remplir avant la visite chez le dentiste pour documenter les défis actuels de l'enfant et les stratégies aidantes. Les dentistes de proximité qui ont envie de travailler avec cette clientèle peuvent s'en servir. Citation. Les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, des déficiences intellectuelles, des troubles d'anxiété grave ou un trouble déficitaire de l'attention ont souvent en commun l'anxiété. L'idée, c'est donc de les préparer et aussi de rester toujours dans le positif. Fin de citation, explique la docteure Tasnim Alami-Laroussi. Citation. Et il y a aussi tout l'aspect humain, renchérit Élise Crevier, c'est-à-dire respecter le rythme de l'enfant. Fin de citation. Grâce à diverses sources de financement, revenus, subventions, philanthropie, commandites, Sourires solidaires peut compter sur une ergothérapeute, des éducatrices, un centre éducatif, une salle de repos. Comment une clinique dentaire de proximité habituelle peut-elle tirer son épingle du jeu? Selon la docteure Tasnim Alami-Laroussi, pour la majorité des patients à besoins particuliers, de petites adaptations suffisent à rendre le soin plus agréable, mieux adapté. Citation. Une couverture sur une chaise, un toutou lourd, une balle anti-stress, des lumières tamisées, des pictogrammes. Fin de citation. Sourires solidaires est aussi un milieu de stage pour les étudiants en médecine dentaire et transmet volontiers son expertise aux cliniques intéressées. Citation. Quand Sacha a vu la couverture douce sur la chaise, ça a fait la différence. Fin de citation, ajoute Élise Crevier. La docteure Tasnim Alami-Laroussi aimerait que l'État reconnaisse la désensibilisation comme un code qui pourrait être facturé à la Régie de l'assurance maladie du Québec pour favoriser les rendez-vous prolongés avec les enfants à besoins particuliers. C'était pour apprivoiser la visite chez le dentiste à petits pas. Un texte de Catherine Huntfield, paru le 27 juillet 2025 dans La Presse.
À Trois-Rivières, les joies de vivre dans une cité-jardin. Un texte de Marco Fortier, paru le 4 août 2025 dans Le Devoir. Une authentique cité-jardin a pris naissance au siècle dernier sur un coteau surplombant la rivière Saint-Maurice à Trois-Rivières. Le quartier Normanville a l'air d'un labyrinthe avec ses rues tout en courbe, ses grands arbres et ses espaces verts. Le silence règne dans ce cocon douillet conçu pour protéger ses habitants contre les affres de la ville. C'est le concept même d'une cité-jardin. Isoler un quartier dans un écrin. Les rues labyrinthiques du secteur Normanville sont presque désertes. Aucun automobiliste ne fait sciemment un détour par ce dédale où la lenteur est de rigueur. J'adore ce quartier-là. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir une meilleure qualité de vie, dit Hélène Roy, en nous accueillant devant la maison où elle et son mari ont élevé leurs 3 fils devenus adultes. Le couple habite depuis 45 ans au même endroit, place de Vaudreuil, en face d'un parc. C'est plus tranquille ici qu'à la campagne chez mes parents. On est entouré de boulevards, mais on n'entend aucun bruit, ajoute cette retraitée du milieu de l'éducation. La Cité Jardin du Tricentenaire, près du Parc Maisonneuve à Montréal, est un autre exemple de ce concept urbanistique du siècle dernier. L'enclave huppée de Mont-Royal, au centre de la métropole, incarne aussi cette vision bucolique de la ville, visant à offrir aux résidents un milieu de vie propre et sain, loin des maladies et des méchants communistes révolutionnaires. Pour la maintenir loin des foules, la cité-jardin de Normanville est ceinturée de larges artères où se concentre la circulation motorisée, ainsi que les commerces, restaurants, cafés, quincailleries, salons de coiffure, églises, hôpitaux et même l'école primaire. Tout est accessible à pied ou à vélo. Cette cité-jardin n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un quartier planifié, une rareté dans le Québec des années 1940 et 1950. Hélène Roy et son mari, François Roy, adorent leur quartier pour sa conception urbanistique, qui contribue directement à leur bonheur. Pour eux, un quartier bien pensé rend la vie belle. Comme si l'harmonie du design des rues et des espaces verts se reflétait dans l'état d'esprit des résidents. L'entraide et la solidarité règnent entre voisins. On est loin ici du chaos et de l'individualisme des villes québécoises laissées au bon vouloir des promoteurs immobiliers. Loin aussi de la densification qui fait foi de tout aujourd'hui en raison de la crise du logement. Un tour de ville. « Je t'emmène faire un tour du quartier », lance François Roy, qui a travaillé une trentaine d'années pour la ville de Trois-Rivières après une carrière à la radio. Il est passionné par l'histoire de son patelin, une des plus anciennes villes du Québec, fondée en 1634, et de son quartier. Un buste de Maurice Duplessis, un des trifluviens les plus célèbres, trône bien en vue dans son bureau, chez lui. La cité-jardin de Normanville a vu le jour en 1948, lors de l'ouverture de l'hôpital Sainte-Marie. À cette époque, le gouvernement construisait de petites maisons pour les soldats qui revenaient du front. Plus de 70 de ces habitations, superbement entretenues, réaffirment encore aujourd'hui le caractère presque centenaire du quartier. Un peu plus loin, un musée de rue à ciel ouvert accueille les passants. Des sculptures de 24 artistes sont exposées sur les parterres des maisons de quelques rues du secteur. Cette initiative du Comité culturel de Normanville revient chaque été depuis 2018. Au Cap aux Corneilles, qui surplombe la rivière Saint-Maurice, François Roy nous rappelle que Trois-Rivières a été la mecque du saut à ski au Canada dans l'entre-deux-guerres, avant même la fondation du quartier Normanville. Quatre immenses tremplins en bois ont été construits entre 1925 et 1948. Des compétitions regroupant des athlètes d'origine norvégienne, finlandaise, britannique et américaine, en plus du Canada, attiraient des milliers de spectateurs. Aujourd'hui, les foules convergent plutôt vers le stade de football des Diablos du cégep de Trois-Rivières. Pierre Vercheval, célébrité locale, a commencé sa carrière ici. Illustre personnalité. En parcourant les rues du quartier, François Roy nous montre les maisons, surtout des bungalows, d'illustres trifluviens. Jean-Victor Allard, premier francophone à commander les forces canadiennes, qui a signé le cessez-le-feu entre les deux Corées au nom du Canada en 1953. Léon Balcer, ministre fédéral au milieu du siècle dernier, le patriote Ludger Duvernay, qui a fondé un journal avant même d'avoir 20 ans. Le médecin et écrivain Néré Beauchemin, l'historien et ministre Denis Vaugeois et même le ministre Jean Boulet du gouvernement Legault. Tant qu'à rester dans le name-dropping, François Roy mentionne au passage la résidence de Brine-Lebeuf, chanteur et bassiste d'Offenbach, le groupe de Jerry Boulet. De son côté, Hélène Roy a assisté à l'éveil politique d'une autre personnalité locale. À titre de responsable des services aux étudiants au Collège La Flèche, elle a côtoyé l'élève François-Philippe Champagne, qui allait devenir le ministre fédéral que l'on connaît. Un de ses élèves les plus marquants en 30 ans de carrière. C'était très, très clair, son plan était fait. Il allait étudier en droit international, faire une expérience à l'étranger, et à son retour, il se lancerait en politique, raconte la retraitée. Le jeune surdoué a suivi le plan. Il est député depuis 2015 de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain, voisine de Trois-Rivières. Chez les Rois, on ne s'étonnerait pas de voir un jour François-Philippe Champagne dans le siège de Premier ministre. Genèse d'un quartier. Notre promenade dans Normanville nous mène sur la terrasse du Café Cognac, dans le secteur commercial du quartier. C'est un des lieux de rencontre des placoteux du coin. On rencontre Denis Ricard, ex-chef de l'urbanisme de la ville, aujourd'hui à la retraite, qui a fait les 400 coups avec François Roy à l'époque où les deux travaillaient à l'Hôtel de Ville. En prenant une pinte de bière, les amis évoquent les batailles épiques entre la ville-centre et les banlieues qui divisaient les forces vives de la région. Les fusions forcées de municipalités par le gouvernement du Parti québécois au début des années 2000 ont mis fin aux chicanes de clochers. Trois-Rivières perdait ses usines qui allaient s'établir en Chine, tandis que les banlieues accaparaient la croissance démographique. On était en compétition avec Trois-Rivières-Ouest, ça n'avait pas de bon sens, lance Denis Ricard. Il a coécrit en 2018 un fascicule sur l'histoire de Normanville. Au fil des pages, on assiste à la naissance d'un quartier typique du Québec. Les communautés religieuses, qui assuraient les soins de santé et l'éducation, ont cédé la place à des institutions laïques. Les centres commerciaux voient le jour tandis que l'usage de la voiture se répand. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, une solidarité bien organisée façonne depuis 80 ans ce qu'on peut appeler la qualité de vie. Les tremplins de ski, les plateaux sportifs, les tournois de tennis, les cours de peinture, de conditionnement physique, de yoga, d'espagnol, de théâtre, tout ce qui pimente le quotidien continue de fleurir grâce à l'engagement des citoyens. C'était « À Trois-Rivières, les joies de vivre dans une cité-jardin », un texte de Marco Fortier paru le 4 août 2025 dans Le Devoir.